are powerful.
We run this mother.
La femme puissante est un genre de monstre.
Y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire à du clito.
Femme puissante, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Eh bien nous, pendant les vacances de Noël, nous célébrerons les femmes puissantes, dirigeantes, chirurgiens, philosophes ou actrices. Et ce samedi, une grande figure du féminisme. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
On avait dû monter à pied, non?
Non, à pied, c'est se tuer. Ça fait 10 étages, en vérité.
Vous les faites à pied, parfois?
Jamais.
Jamais. Bonjour Elisabeth Badinter.
Bonjour.
Je vous ai même pas dit bonjour. Je peux rentrer?
Mais je vous en prie.
Merci beaucoup de nous accueillir chez vous.
Mais voilà.
Ça fait combien de temps que vous habitez là?
Ça fait depuis 1760.
1760.
Oui, bah, je dis ça parce que je corrige en ce moment un livre. 1972.
Ah oui, ça fait de 40 ans.
Ah oui, bientôt 50.
Vous nous emmenez à votre bureau?
On ne va jamais l'interviewer sans avoir toujours un petit peu peur, tant la femme en impose, tant on craint de prononcer un mot qu'elle trouvera stupide ou un peu con. Elle est plus souriante et plus avenante que son image peut laisser paraître. Elle vous offre du chocolat, vous montre les photos de ses petits-enfants et la vue de son appartement sur le Panthéon, appartement qu'elle partage depuis des décennies avec son icône de mari. Écrivain, philosophe, elle est une vigie morale, une figure du féminisme depuis 40 ans, n'hésitant pas à choquer quand elle théorise que l'instinct maternel n'existe pas ou qu'il n'y a pas de féminisme sans laïcité. On lui reproche d'être trop radicale, trop intransigeante, à contre-temps de l'époque. Elle s'en fiche, seule compte ses combats et ses convictions. Elle pèse chaque mot qu'elle prononce, ne laisse rien au hasard. La précision de sa pensée est foudroyante, sa liberté de ton l'est aussi. Elisabeth Badinter est notre invitée.
Alors c'est là votre bureau?
C'est là mon bureau.
Qu'est-ce qu'il y a de personnel à vous dans ce bureau?
Tout.
Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que...
Écoutez, tout. Il y a beaucoup de photos, il y a mes
là,
livres.
Là c'est votre père?
C'est mon père, oui.
Il est en bonne place, votre père?
Oui.
Robert Badinter est en bonne place également.
Ah ben oui,
vos deux hommes, votre père et votre mari.
Oui, il est même plusieurs fois.
Oui,
des
je vois
plusieurs
que...
photos. Ouais.
Vous, il y en a à peine une. Vous n'aimez pas vous voir en photo?
Non. Il y en a deux d'ailleurs. Il y en a une quand j'ai 4 ans et puis il y en a une quand je suis un peu plus vieille.
Elle est où celle où vous avez 4 ans?
À droite, toute.
Ah, c'est la petite fille ouais. Modèle là?
Modèle, toi, après, je sais pas.
Oh, ben là, vous êtes belle là. Studio Harcourt, 4 ans.
4 ans, 1948. Et j'ai une petite fille qui est exactement comme ça. Quand elle avait 4 ans, elle regardait ça et elle disait « Mais c'est moi
!» Et est-ce qu'elle a la détermination de sa grand-mère?
Je crois, oui.
Ouais,
pire encore.
Pire encore que vous.
Oui.
Et l'esprit rebelle aussi?
Oui.
Très. C'est ce qu'elle veut?
Oui, sacré caractère.
On va s'installer.
Oui, alors...
Elisabeth Badinter, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi?
Je vous réponds que le mot puissant me semble mal approprié. Je dirais que j'ai la chance, c'est un petit miracle, d'être une femme plutôt d'influence. Je n'ai pas de pouvoir réel. Je n'ai qu'un pouvoir modeste, mais qui n'est pas absolument nul, d'influence. C'est-à-dire que je peux avoir des idées ou des convictions que d'autres partagent avec moi.
Ouais. Mais ce serait quoi une femme puissante, par exemple?
Je vais vous dire, la femme la plus puissante du monde aujourd'hui serait la patronne de Google avec deux enfants. Voilà. Et là, elle aurait tout. Elle aurait la puissance maternelle, une responsabilité inouïe du point de vue professionnel. Elle aurait aussi une puissance économique majeure, on peut le dire. Donc voilà, ça serait pour moi une femme puissante.
Et alors attendez, je vous reprends. Si la patronne de Google n'avait pas deux enfants, elle serait pas puissante?
Elle serait puissante, mais moins puissante.
Pourquoi?
Parce que je considère que la faculté des femmes de faire des enfants est un pouvoir formidable.
Oh, mais c'est terrible pour celles qui n'ont pas d'enfants.
Non, parce que maintenant, celles qui n'ont pas d'enfants, on peut les aider à en avoir, dans beaucoup de cas. et que j'ajoute qu'un phénomène neuf, c'est qu'aujourd'hui, des femmes qui pourraient avoir des enfants décident de n'en pas avoir pour des raisons personnelles, de désir de liberté, de l'impression qu'on n'a pas envie d'assumer tout ce que représente un enfant. Donc, c'est moins stigmatisant, parce que ça peut être une décision personnelle, libre. Voilà, je préfère une vie sans enfant. C'était inimaginable il y a 50 ans.
Mais c'est ce que j'allais vous dire, il y a une forme de puissance ou une forme de liberté très aboutie chez une femme qui décide de ne pas avoir d'enfant, alors que la pression sociale, et je dis ça à Elisabeth Badinter, la femme qui a tellement suscité de controverses avec ce que vous avez écrit en 1980, on n'imagine pas aujourd'hui ce que ça a été la publication de ce livre par vous, où vous écriviez que l'instinct maternel n'existe pas, que ce n'est pas quelque chose d'inné d'aimer son enfant. Vous aviez suscité une immense controverse à l'époque, et aujourd'hui vous me dites si on n'a pas d'enfant, on n'est pas totalement accompli.
Non, j'ai pas dit accompli.
La puissance.
J'ai dit la puissance maternelle. C'est une faculté accordée aux femmes qui, à mon sens, est à l'origine du patriarcat, qui a voulu ligoter les femmes et, je dirais, diminuer leur puissance, justement, de faire des enfants. Je ne dis pas du tout que le fait de ne pas avoir d'enfants est un manque. Ça dépend des femmes. Et d'ailleurs, j'ai toute ma vie défendu l'idée qu'il n'y avait pas la femme. Nous sommes toutes différentes, nous avons des histoires différentes, nous avons des désirs différents, et que, par conséquent, on ne peut pas essentialiser, globaliser la femme.
Mais rappelez-nous ce que c'était que de publier en 1980 L'amour en plus et de dire ça, pour ceux qui ne l'ont pas connu.
Bah, évidemment, ça a fait boum. Ma stupéfaction d'ailleurs, mais je n'en ai pas souffert du tout, parce qu'il y avait tellement de femmes de ma génération qui me remerciaient de dire quelque chose qu'elles avaient ressenti et qu'elles n'osaient pas évoquer. Ça les rendait coupables. Ouf, quelqu'un dit ce que j'ai à fleur de conscience. Et il y avait beaucoup de femmes comme ça.
Que... qui n'osaient pas dire que
c'est pas une évidence
Écoutez, d'aimer son enfant immédiatement.
Oui, exactement. C'était pas une évidence à l'époque. Mais aujourd'hui encore, quelle mère oserait dire « je n'aime pas cet enfant » ? Quelle mère ? Et pourtant, moi je dis qu'on tricote des rapports depuis la naissance d'un enfant. On apprend à le connaître et à l'aimer. L'amour, c'est pas automatique. Donc il y a des femmes pour lesquelles ça n'arrive pas. Pour des raisons multiples qui peuvent être très différentes. Ce sont souvent des mères de devoir qui font tout ce qu'elles peuvent pour cet enfant. Mais au fond d'elles-mêmes, elles peuvent s'ennuyer à mort avec cet enfant. Et comme vous voyez, je suis devant le jardin du Luxembourg. Et donc, pendant très longtemps, avant d'écrire le livre, j'ai observé les femmes seules avec des petits-enfants au bac à sable. Et je les ai observées, elles, beaucoup plus que les enfants d'ailleurs, parce que je pouvais lire sur le visage de certaines un ennui, mais épouvantable.
Et donc,
je ne voyais pas les mères, par exemple, la plupart du temps, descendre dans le bac à sable, venir jouer avec l'enfant. Elles restaient là, elles avaient un livre, ou elles n'avaient pas de livre, et voilà.
On a digressé sur la maternité immédiatement, c'est étonnant, c'est la première fois que ça arrive. Mais après tout, c'est avec vous, ça ne m'étonne pas. Je vais revenir sur les femmes et le pouvoir, si vous le voulez bien, et la puissance. Vous écrivez dans Le pouvoir au féminin, « Les femmes comme les hommes sont détentrices d'une volonté de pouvoir, d'une virilité et d'une force. Ni l'ambition, ni l'idéologie, ni l'intelligence n'ont de sexe. » Êtes-vous sûre de cela ? Que les femmes, autant que les hommes, veulent le pouvoir.
Je n'en suis pas sûre à 100%, mais je constate que dès lors qu'elles se sentent autorisées à l'exercer, je ne vois pas où sera la différence. Et j'observe d'ailleurs que des femmes qui ont du pouvoir dans des entreprises, etc., ne sont pas nécessairement, contrairement à ce qu'on a coutume de dire, plus compréhensives à l'égard des autres femmes qui travaillent pour elles. Mais ce qui me frappe, c'est que, et peut-être que c'est votre réflexion première, vous rechignez à dire vous avez du pouvoir, je pense que tous les hommes ne veulent pas le pouvoir, mais beaucoup de femmes aussi peuvent vouloir le pouvoir et elles se sentent de plus en plus autorisées.
Est-ce qu'on est en train, les femmes, de gagner la bataille du pouvoir ?
Oui, ah oui, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue, et dans tous les domaines, c'est-à-dire pas seulement professionnel, pas seulement privé. Je vais vous donner une petite illustration. Dans les publicités radiophoniques, les hommes sont tous des crétins et les femmes sont toutes celles qui traitent leurs compagnons comme des bébés.
Je n'ai pas remarqué, mais bah, si vous le dites.
Vous remarquerez ce que je vous dis, je ne veux pas citer...
De marque,
non. Mais je me dis, mais ce n'est pas possible. Les hommes sont représentés aujourd'hui, pour vendre différents produits, comme des bébés. Et elles sont des femmes avec un ton, un savoir...
Vous voulez dire que même les pubs émasculent les hommes?
Non, la pub n'émascule pas, et constate l'émasculation.
Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Là aussi, je vous cite, « Rares sont les moments de l'histoire où l'alliance des deux mots, ambition et féminine, n'a pas choqué. »
Vous voyez, ça continue. Et se dire « je suis ambitieuse », c'est encore...
Suspect.
Suspect, oui. On se dit « oh là là, c'est une garce, une dominatrice, une méchante, quoi. »
Comment vous l'expliquez alors qu'on dit d'un homme « il est ambitieux, c'est waouh », et une femme, c'est suspect, c'est...
Je pense que c'est les ultimes reliquats de ces traditions millénaires, enfin millénaires en tous les cas, centenaires. C'est vraiment des reliquats, ça. Mais ça veut dire que ça pèse quand même très lourd sur nos inconscients, sur même notre conscience, voilà, ça pèse encore.
Vous pourriez dire que vous avez été ambitieuse ?
Oui. Je peux le dire, tout à fait. J'ai été ambitieuse pour moi-même, c'est-à-dire que je m'étais donné un objectif, je l'ai difficilement atteint, mais j'aurais fait n'importe quoi, j'aurais continué inlassablement à passer l'agrégation que je ratais. Alors c'est une ambition modeste par rapport à des grandes ambitions politiques ou artistiques, mais oui, quand on a un objectif, on se dit « j'y arriverai ». Quoi qu'il arrive, quel que soit le prix à payer.
Elisabeth Badinter, vous avez 16 ans, vous êtes en seconde à l'école alsacienne et vous découvrez une femme et son livre, Le Deuxième Sexe. Vous dites « ce fut le coup de tonnerre de ma vie ». On écoute le coup de tonnerre.
Il faut que les femmes travaillent et comme ça elles ne seront plus des parasites et elles s'entrouveront beaucoup mieux. Et je crois aussi les hommes qui se plaignent bien souvent d'être dévorés par précisément les femmes qui n'ont pas d'autres...
Vous pensez que l'indépendance économique est la condition sine qua non de...
Absolument, c'est à la fois la garantie de leur indépendance, de la conscience qu'elles prendront d'elles-mêmes, des responsabilités qu'elles auront à assumer, et la base sur laquelle alors elles peuvent revendiquer des droits civiques et avoir vraiment un rôle dans la société, et trouver par-dessus le marché leur bonheur en même temps que leur liberté.
Pourquoi Simone de Beauvoir fut le coup de tonnerre de votre vie? Qu'est-ce que c'est pour une fille de 16 ans de découvrir le deuxième sexe?
C'est la révolution intérieure quand le destin féminin était tout tracé, indiscuté jusqu'alors. C'est-à-dire, tu vas te marier ma fille, t'auras des enfants, tu t'occuperas de ta maison et de ton petit mari, quoi. C'était ça le destin des femmes. Et qu'une femme dise, moi je veux pas me marier, je ne veux pas d'enfants, je veux écrire, et voilà, ça m'a semblé... comme quelqu'un qui enlevait les barreaux d'une prison pour les femmes. Et ça m'a tellement enthousiasmée que ça a eu un effet très puissant sur moi. Simone de Beauvoir, c'était une femme libre, quoi. C'était un modèle de femme libre et qui était à l'avant-garde de la critique des conventions pour les femmes. Enfin, vraiment...
C'était votre modèle, jeune ?
Oui.
C'est toujours votre modèle ?
Non, je n'ai plus vraiment de modèle. J'ai plus l'âge.
Vous en avez eu d'autres de modèles dans votre formation ?
Féminine, non, je crois pas.
C'est la seule ?
C'est la seule qui m'ait apporté cette richesse de réflexion. Elle m'a forcé à réfléchir. Et puis, je vous dis, une femme libre qui tournait le dos à toutes les conventions, je trouvais ça formidable.
Et pourtant, vous dites que certaines de ces théories à Simone de Beauvoir sont dépassées. Lesquelles et pourquoi ?
Le principal point de désaccord, à mes yeux, en tous les cas, entre elle et moi... c'est qu'elle a tout à fait sous-estimé la notion de féminité. Elle a cru que la féminité, c'était une invention des hommes. C'est pas vrai.
Et pourtant, elle était féminine, Simone de Beauvoir. Elle prenait soin d'elle.
Mais non, mais ne pas être féminine ne se résume pas au maquillage, à la coquetterie, etc.
Oui, mais ça passe aussi par ça.
La féminité, c'est plutôt dans termes psychologiques qu'il faut l'analyser. Elle voyait très bien ce qu'était la masculinité, mais pas la féminité.
Vous regrettez d'ailleurs que les femmes politiques aujourd'hui ont tendance à se viriliser, à gommer la féminité.
Mais parce que elle serait probablement encore mal jugée par le public, les électeurs. Bon, je pense qu'elles ont peur de montrer leur féminité. Regardez ce qui est arrivé à la malheureuse Duflot. Un jour, elle met une robe, ça fait une histoire absolument épouvantable. C'est insupportable. Les femmes n'ont pas envie de subir ça, et donc, une fois pour toutes, elles ont un espèce d'uniforme invisible qui, en général, voilà, les laisse tranquilles de ce point de vue. C'est tout.
Vous dites son désaccord, le désaccord de Beauvoir avec la féminité. Qu'est-ce qu'elle disait de la sexualité féminine, Simone de Beauvoir ?
Elle en a fait une analyse, je dirais, plus d'ordre plus physiologique, biologique, que psychanalytique. Pour avoir pas mal travaillé sur les mêmes sujets qu'elle a abordés, je me suis aperçue que le deuxième sexe n'était pas très très bien sourcé. Elle n'avait pas suffisamment lu. Et donc, il y a un chapitre sur la sexualité, mais ce n'est pas assez approfondi.
Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'elle ne voit pas ?
Elle ne voit pas ce que ça représente du point de vue psychologique, parce que quand elle publie en 1949, elle est encore sur des modèles tellement traditionnels. Elle décrit ce qu'elle voit devant les yeux, mais je trouve qu'elle n'a pas su assez entrer dans le problème psychologique. Elle n'a pas assez lu Freud, ça c'est évident. Et donc, c'est un peu pauvre comme chapitre, par rapport à d'autres qui sont
plus aboutis.
Ah oui, nettement.
Qui a remplacé Simone de Beauvoir aujourd'hui ?
Personne.
Même pas vous ?
Oh non, non, non. Même personne. C'est vraiment la mère des féministes de ma génération. Ah, vraiment.
Je demande à toutes les femmes que j'interviewe une chanson qui leur fait penser aux femmes et à leur puissance. Vous avez choisi Julien Clerc.
Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure.
Claire, Femme, je vous aime, c'était le choix musical d'Elisabeth Badinter.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
Elisabeth Badinter, pourquoi ce choix ?
J'ai trouvé que c'était l'anti-macho, j'ai trouvé que c'était fondant, littéralement, Femme, je vous aime. Mais moi, je suis un peu fleur bleue.
C'est vrai, elle vous touche particulièrement,
ça ? Ah oui. Vraiment.
Vous la fredonnez ?
Non, je la fredonne pas, ça, je fredonne pas. Mais quand j'ai le bonheur de l'entendre dans une radio ou une émission de télévision, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que c'est comme une réconciliation. Elle devrait d'ailleurs, à mon avis, être plus diffusée aujourd'hui que jamais.
Quelle est votre profession ?
Écrivain qui tente d'être philosophe aussi.
Votre situation familiale ?
Mariée, 3 enfants, 4 petits-enfants.
Votre prénom et votre nom, s'il vous plaît.
Elisabeth Badinter.
Elle est l'une des grandes voix du paysage intellectuel français engagé, indépendante, passionnée.
Une femme qui a consacré 15 ans de sa vie à étudier les femmes et leur relation avec les hommes à travers les âges.
Est-ce que vous auriez aimé naître homme ?
Non, j'aime beaucoup être née femme.
Un livre sur l'amour maternel vous a placé plusieurs mois durant dans le plein feu des moyens de communication.
Fausse route, publiée en 2003, qui est d'une actualité brûlante à chaque page.
Vous montrez qu'au XVIIe siècle, l'amour maternel, ça n'existait quasiment pas dans les familles.
Je crois que pour parler d'amour, il faut rechercher les preuves d'amour. Et quand les preuves sont pas là, il faut conclure qu'il n'y a pas tellement d'amour.
Et vous avez deux combats, dites-vous, la laïcité et l'égalité homme-femme. Et vous êtes une féministe qui fustigeait le féminisme victimaire.
C'est donc l'équipe de Charlie qui vous a choisi.
Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe.
Est-ce qu'aujourd'hui l'intellectuel est souvent happé par cette logique de l'immédiateté, cette injonction à devoir répondre tout de suite ?
Ben, je réponds non. Donc, je suis pas happée.
Pas vous.
Non.
Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes heureuse dans la vie ?
Je dirais 8,5-9.
On va en venir aux femmes et à leur combat aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas nécessaire ? Est-ce que ce n'est pas salutaire ce qui se passe depuis 2 ans avec le mouvement MeToo ? Est-ce que ce mouvement-là ne vous semble pas nécessaire aujourd'hui ?
Je le pense nécessaire pour des femmes qui ont subi des agressions physiques, parce que c'est absolument abominable, et parce que j'ai rencontré plusieurs femmes qui ont été violées et qui ne pouvaient pas en parler pendant des années. Et je pense que là, la libération de la parole a dû être extrêmement bienfaisante. Ceci posé, les amalgames entre différentes, entre guillemets, agressions, me paraît extrêmement dangereuse. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai personnellement été outrée, vous m'entendez, indignée de la femme qui a créé Balance ton porc et qui a, pour illustration, attaqué un homme qui aurait eu, etc., à 4 heures du matin, une phrase grossière. Elle a été condamnée par la justice pour diffamation. La vie de cet homme qui devait illustrer Balance ton porc, est foutu. Alors, je vais vous dire, Léa Salamé, j'ai toujours préféré un coupable dehors qu'un innocent en prison. Je trouve un peu fort, quand même, qu'on puisse détruire par un appel au tribunal populaire la vie d'un homme. Ça serait la même chose si c'était une femme. Je trouve ça insupportable. Et c'est de plus en plus fréquent, je veux dire, le tribunal populaire qui se permet de juger, de nommer, de juger, c'est à la justice de le faire. Et je trouve que c'est la fin de la justice. Donc, les femmes qui ont pu parler de ce qui leur est arrivé, sans nommer la personne, elles peuvent avoir porté plainte ou pas porté plainte. Je pense que c'est très salutaire. Mais dès lors qu'on nomme un nom, il est sur la place publique comme la cible numéro 1, ça n'est pas possible pour moi.
Pour vous, c'est ça que vous retenez du phénomène MeToo, ce sont ces excès-là. Enfin, je ne sais pas autour de vous, Elisabeth Badinter, mais par exemple autour de moi, j'ai vu certaines jeunes filles que je n'aurais pas soupçonnées, certaines de mes amies, me dire que oui, elles avaient été touchées ou harcelées ou placées sous emprise ou la cible d'un chantage d'un homme. Alors ça peut être, effectivement, ça peut ne pas aller jusqu'au viol, ça peut être très subtil, mais qu'il y a eu une forme de domination de l'homme sur elle. Vous n'avez pas été surprise de ce mouvement-là ? De l'ampleur, en fait ?
Si, bien sûr, comme tout le monde, j'ai été surprise de l'ampleur, bien sûr. Mais en même temps, j'aime bien qu'on soit rigoureux avec les concepts. Le concept d'emprise, c'est incalculable, c'est totalement personnel. Je trouve que c'est un peu facile, l'emprise.
Il y a eu la tribune des 100 femmes sur la liberté d'importuner, donc Catherine Deneuve, Catherine Millet, etc. Cette tribune a pu choquer beaucoup de femmes, dont l'écrivaine Annie Ernaux, qui estime que si elles parlent comme ça, c'est parce qu'elles sont privilégiées. Écoutez-la.
Le mouvement MeToo, il y a 2 ans, a été pour moi comme une grande lumière, une déflagration que je n'attendais plus au fond. Et ça, ça a été vraiment pour moi un grand espoir qui se lève et qui, vu qu'il y a eu des réactions qui étaient... Pour moi, elles étaient absolument désolantes de la part de femmes célèbres en France, des privilégiées. Des privilégiés qui ne connaissent pas la réalité des rapports entre les hommes et les femmes dans le milieu du travail, dans le métro, partout. Ils ont eu le privilège d'avoir de la liberté, de pouvoir dire non aussi, certainement.
Si elle était là, elle vous dirait peut-être que vous parlez comme ça parce que vous êtes privilégié.
Écoutez, je vais vous dire, je veux parler comme je veux. Ces femmes ont parlé comme elles l'entendaient. Alors, la critique, elles sont des privilégiées, ça explique tout, c'est un peu court.
Alors, en dehors d'Annie Ernaux, j'essaie de comprendre ce qu'Elisabeth Badinter pense de ce mouvement-là. Est-ce qu'on ne retient que les excès avec les hommes cloués au pilori ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans le côté soudain, dans le côté déversoir, au fond, à quelque chose de salutaire pour la société et pour le combat des femmes ? Ou pour vous, c'est quelque chose qui va nous faire régresser, au fond, qui va nous assigner à un rôle de victime ?
Vous m'avez mal entendu. Parce que la première fois que vous m'avez posé cette question, je vous ai répondu oui. Le fait que des femmes aient pu parler a été un soulagement inouï pour elles. Et de ce point de vue, je trouve ça positif. Mais s'en est suivi autre chose. C'est cette autre chose que je critique. Et c'est vrai qu'il faut cesser de penser que la femme est une victime née. Je ne veux pas qu'on dise les femmes. Si on se donnait la peine de regarder qui est harcelé, comment se comportent les petits chefs dans les bureaux ? Tout ça, oui, c'est important et intéressant. D'ailleurs, de mon point de vue, MeToo aura effectivement amélioré, à mon sens, le sort des femmes victimes de violences physiques, parce que en leur permettant de parler et en montrant l'ignominie de la chose, mais aussi les femmes dans leur travail. Parce que ça, j'ai vu. J'ai vu, mais enfin, c'est quand même... des exceptions à la règle. Les hommes ne sont pas tous des potentiels agresseurs, comme le dit Caroline de Haas. C'est pas vrai. Je trouve que c'est absolument dégueulasse, d'ailleurs, de laisser entendre ça. Et que ça aura des conséquences très graves sur le rapport homme-femme.
Vous craignez une guerre des sexes, par exemple ?
Je crains pas une guerre des sexes, je crains le séparatisme. Je crains la méfiance réciproque. J'entends beaucoup de jeunes hommes qui sont maintenant terrorisés, qui ne savent pas comment faire, quoi dire. Un mot pour vous clouer au pilori. Je n'en peux plus. Je vais vous dire, Léa Salamé, j'étouffe. Voilà, j'étouffe. Où on est maintenant ? On ne peut plus avoir de deuxième degré, on ne peut plus plaisanter. Il y a une espèce de chape de plomb qui est en train de peser sur nous tous les jours un peu plus. Moi, je ne veux pas ça.
Pour vous, tout ça, c'est la conséquence des réseaux sociaux et du fait qu'on ne peut plus rien dire parce que tout prend une ampleur folle sur les réseaux sociaux ?
Exactement. On coupe une phrase là où ça peut être ambigu et puis on vous colle ça sur les tweets, etc. Et ça y est, mais tout d'un coup, monte des milliers, des centaines de milliers, voire dans certains cas des millions d'indignation, de condamnation. Et moi, je trouve ça atroce.
C'est la liberté qui est menacée, là ?
Oui, c'est la liberté de parole, en tous les cas.
Oui,
c'est certain.
La liberté de parole. De ne plus pouvoir rien dire.
Et quand vous parlez des 100 femmes qui avaient été incarnées, je dirais, par Catherine Deneuve, c'était leur liberté de parler aussi.
Vous ne l'avez pas signée, cette tribune, vous ?
Non, on me l'a proposée, je ne l'ai pas signée.
Pourquoi ?
Parce que je ne partageais pas totalement ce point de vue. Je ne partageais pas ce point de vue.
Ça allait trop loin dans les frotteurs dans le métro, tout ça.
Pas pour moi.
C'est pas votre style, ça.
Non.
Vous pouvez pas cautionner ça
non plus. Mais en tous les cas, je souhaitais qu'ils paraissent. Je redoute le moment où il n'y aura plus qu'une parole qui pourra s'exprimer. Je redoute ce moment-là.
On y est ?
Oui, on y est. Quand on empêche Sylviane Agacinski de faire une conférence parce qu'elle est soupçonnée d'homophobie, Mais c'est abominable.
Et vous dites ça alors même que vous avez des désaccords de fond avec Sylviana Gazanski, notamment sur la GPA.
Oui, mais on peut se parler sans s'insulter, sans... Je suis pas d'accord avec elle, elle est pas d'accord avec moi. Ça ne fait rien, nous pouvons parler.
Vous êtes scandalisée qu'elle soit...
Ah, mais scandalisée.
Qu'une de ces conférences soit annulée.
Et parce que menacée...
Soit boycottée.
C'est arrivé à elle, c'est arrivé, je crois... au président Hollande, c'est arrivé à Finkielkraut. S'il faut aller dans une université ou à Sciences Po avec des policiers à côté, c'est vraiment la fin de la liberté de parler. Et j'en suis très inquiète. Si vous parlez mal, si vous n'êtes pas dans la doxa actuelle, eh bien, vous êtes mis au pilori. Vous trouvez que c'est la liberté de parler est vivante encore ? Moi, pas.
Il n'y a pas de féminisme sans laïcité, avez-vous déclaré au Monde en avril 2018. Il n'y a pas de féminisme sans laïcité.
Oui.
Vraiment ?
Ah oui, vraiment.
Donc si je suis une femme aux États-Unis voilée, qui me déclare féministe, ben, je ne suis pas vraiment féministe ?
Le féminisme se définit par la liberté et la fraternité, et surtout l'égalité. Et je voudrais bien savoir... Comment on peut se dire féministe si on suit les commandements divins dans les religions juives, catholiques et musulmanes ? Alors là, vraiment, on détourne les termes à un point formidable. Non, on peut être croyante, c'est très bien, ça vous regarde, mais allons pas parler de féminisme musulman qui se réclame de la charia. Bon non, quand même, faut rester un petit peu...
On connaît votre combat pour la laïcité, on connaît votre combat contre le voile, et ce n'est pas le lieu là, dans cette interview-là, de refaire le film. Depuis l'affaire du foulard de Creil, il y a 30 ans, vous avez été en première ligne pour critiquer le voile, vous n'avez jamais baissé les bras, ça a pu heurter votre famille politique, la gauche, qui vous a beaucoup critiqué, Elisabeth Badinter. Il paraît que même François Mitterrand disait que vous exagériez, que vous étiez intolérante, trop radicale. C'est vrai ça ?
Je ne sais pas, il ne l'a jamais dit à moi. Il m'a simplement dit que lui, il trouvait que les petites jeunes filles voilées de Creil étaient charmantes. C'était sa façon de dire son désaccord.
Son désaccord avec vous.
Oh bah oui.
Il les trouvait charmantes et vous n'avez jamais trouvé le voile charmant. Je ne vais pas refaire le film ici. Est-ce que toutes les critiques que vous avez reçues, pour le coup sur les réseaux sociaux, etc., on vous a traité d'islamophobe, on vous a traité de radical, d'extrême, ça vous a blessé ou vous en fichez ?
Je m'en fiche. Et je m'en fiche pour une mauvaise raison, c'est que j'ai pas les réseaux sociaux et je ne veux surtout pas les avoir. Je m'en fiche aussi parce que ça ne m'atteint pas. Mais vraiment, non. J'essaye, par honnêteté intellectuelle, de dire ce que je pense.
Vous n'avez jamais vacillé sur ce sujet-là. Il n'y a pas des discussions avec des femmes voilées qui vous ont fait douter, qui vous ont fait penser contre vous-même.
Non, non, mais attendez, moi je ne suis pas... contre le voile sur l'espace public, puisque j'ai toujours dit, je suis pour la loi de 1905. Rien que cela, et pas plus ni moins. Mais qu'on n'aille pas, vous comprenez, me dire que c'est qu'il peut y avoir une possibilité de féminisme quand on s'appuie sur les textes sacrés. C'est pas vrai. Il faut quand même voir ces textes et la place assignée aux femmes. C'est quand même le mari, le maître. On peut la battre si elle se conduit pas comme le mari veut. Et après, on vous parle de féminisme. Oh, ça me met en colère, ça.
On va non. pas refaire le film ici, on va pas refaire le match ici. Non. On connaît vos positions et vous les avez beaucoup données sur le voile. Il y a une autre chanson que vous aimez bien, Elisabeth Badinter.
Les madames qui venaient voir notre oncle après dîner, on les appelait Tante Jeanne. Ce n'étaient jamais les mêmes, mais on les aimait quand même. On aimait nos Tantes Jeanne. Ces tontons qui étaient contents quand ils enlevaient leurs gants, ils les appelaient chères Jeanne.
Gilbert Bécaud, les Tantes Jeanne, pourquoi vous aimez cette chanson ?
Je ne sais pas, je la trouve charmante. J'aime la musique et il faut que je confesse, j'aime les chansons françaises, c'est ma musique préférée. Pourquoi j'aime celle-là ? Ça me donne une gaieté, je souris quand j'entends cette chanson.
C'était qui les Tantes Jeanne ?
Ça, j'en sais rien quelle était cette tante Jeanne, mais c'était évidemment les maîtresses de l'oncle.
Oui, c'est ça.
C'est libertin.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être même des prostituées.
Oh non, je crois pas. Je ne l'ai pas senti comme ça.
Ouais. Mais c'était libertin.
Mais si vous voulez me forcer à dire que je défends la prostitution, je le dis.
Oui, j'essayais gentiment de vous faire dévier sur vos positions iconoclastes en général. Et notamment, vous avez défendu la prostitution. Vous êtes pour la GPA, alors que pour beaucoup de femmes, vendre son ventre, ça reste quelque chose d'horrible. Vous avez aussi été contre la loi sur la parité en politique. Je vous demande pas de revenir sur chacun de ces sujets-là, mais aller à l'encontre de la doxa, comme vous le dites. Vous aimez bien la provocation ?
Je dirais, j'aime la démystification. Ah, ça me plaît énormément. Quand je vois quelque chose qui me semble une mystification, d'abord, je me demande toujours pour quel intérêt, je pars comme une bombe.
On ne peut pas vous arrêter après ?
Je ne sais pas, peut-être.
La loi sur la parité en politique, est-ce qu'elle n'a pas fait du bien ? Est-ce que vous ne vous dites pas, aujourd'hui, 20 ans après, j'ai eu tort de m'y opposer ?
Je l'ai déjà dit publiquement. Je suis toujours opposée philosophiquement à ça. Il faut que vous vous souveniez, peut-être personne ne s'en souvient, qu'il s'agissait d'introduire la différence biologique dans la Constitution, qui me semblait extrêmement dangereuse. Moi, je ne voulais pas de ça. Je croyais beaucoup à la compétence. J'étais sûre que les femmes étaient aussi compétentes que les hommes. Peut-être parfois plus, peut-être. Mais j'ai aussi dit, 20 ans plus tard, que ça a sûrement accéléré les choses. Et qu'en ce sens, je trouve que ça a été bénéfique. Voilà.
Donc ça vous arrive de dire « je me suis trompée ».
Mais oui, ça m'arrive, bien sûr. Il faut que je m'en aperçoive, c'est tout le problème. Mais je dois dire que la parité, elle est valable pour les hommes. Or, il y a des professions maintenant, je pense à la magistrature, où il n'y a plus la parité. Il n'y a plus la parité.
Il y a trop de femmes.
Je ne dis pas trop, mais elles sont, les filles qui se présentent au concours, elles sont largement majoritaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans 20 ans une magistrature ultra féminisée. Ça ne me semble pas plus juste, voyez-vous. Any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again,
you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ache just like a woman. But you break just like a little girl.
Bob Dylan, Just Like a Woman. Et on retourne tout de suite chez Elisabeth Badinter.
France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
Elisabeth Badinter, toutes les femmes puissantes que j'ai interviewées ont un rapport particulier à leur père.
Radioscopie, Jacques Chancel.
Marcel Bleustein-Blanchet.
Marcel Bleustein-Blanchet, né en Guin, les Bains, le 21 août 1906, donc 62 ans, toujours plus jeune, toujours plus actif, toujours plus sollicité. Vous êtes le seul homme du monde à posséder un palais qui rivalise avec l'Arc de Triomphe. Marcel Bleustein-Blanchet, vous êtes président de Publicis. Je dirais, moi, que vous êtes le pape d'un nouvel art, et ce nouvel art, c'est la publicité. D'accord ?
Non.
Bon, alors, expliquez-vous.
Non, parce que je ne veux pas paraître très modeste, ce n'est pas la peine de faire de la modestie. Je vais vous dire simplement une chose, c'est une phrase d'Alfred de Vigny qui disait « L'homme qui a réussi est celui qui, à l'âge mûr, a réalisé ses rêves de jeunesse. » Ben, je crois que je suis cet homme parce que j'ai dépassé mes rêves de jeunesse. Ne croyez pas que j'avais prévu cette ascension. Je crois que cette ascension fait un fait et elle a doublement pour moi de prix. C'est que je n'aurais pas cru qu'après la guerre, ayant fait toute la guerre dans l'aviation, craignant de ne pas revenir, et je crois que c'était, j'avais une chance sur deux en tous les cas, c'est d'avoir eu la chance de recommencer le double saut périlleux comme je l'avais fait à 20 ans. Alors là, oui, c'est une satisfaction.
Votre père, donc, Marcel Bleustein-Blanchet, chez Jacques Chancel, Radioscopie, on est en 1968. Vous dites, notre père nous a donné, à nous, ses filles, vous et vos sœurs, les moyens psychologiques de l'ambition. Ça veut dire quoi ?
Eh bien, ça veut dire qu'il a exprimé tout le temps son respect et sa confiance dans ses filles. Je vais parler pour moi, en tous les cas. Et quand un père vous transmet cette confiance, c'est immense pour une fille. J'ai remarqué que ce que j'appelle les filles à père, c'est-à-dire qui ont eu la chance d'avoir un père très respectueux, très...
aimant.
Oui, aimant, mais en même temps, qui, d'une certaine façon, donne de leur force, de leur énergie à leur enfant féminin, ça vous donne cette force de confiance que beaucoup de femmes n'ont pas eu la chance d'avoir. Et c'est pas parce que mon père était puissant, c'est parce qu'il était une mère juive.
Ah.
Oui, on peut le dire. C'est-à-dire qu'il avait été très aimé par sa mère, il était le dernier de 9 enfants, il avait été très aimé. Et cet amour-là, il l'a reporté sur ses filles. Il est vrai qu'au départ, il aurait voulu 3 fils. Il n'a eu que 3 filles.
Désolé.
Bon, désolé. Mais il
l'a accepté ?
Oui, oui, absolument. Il l'a évidemment qu'il l'a accepté. Mais c'était enthousiasmant qu'un père s'occupe comme ça de ses enfants. Et surtout, disent tout le temps, si tu veux, tu peux. Mais il faudra payer le prix. Et le prix peut être très, très dur et très cher.
Vous avez payé le prix, vous ?
Écoutez, j'ai payé un prix beaucoup moindre que beaucoup d'autres gens. Alors, je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus. J'ai eu beaucoup de chance, non seulement d'avoir ce père, non seulement d'avoir la chance de pouvoir faire ce que je voulais, à cause de l'aisance de mes parents. Donc, je ne veux surtout pas. Mais en tant, par exemple, que présidente de la Fondation de la vocation qu'il a créée pour les jeunes, je vois à quel point, aujourd'hui, ce sont des bourses données à des jeunes qui ont des vocations très puissantes et qui ont un chemin de croix pour y arriver, économiquement, socialement.
Vous ne l'avez pas eu, puisque...
Bien sûr que je ne l'ai pas eu, c'est pour ça que je peux pas...
Votre père était très riche, socialement il était très, très intégré, très...
Oui, absolument. Mais ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, sur 30 bourses, maintenant les 4/5 sont des filles, des femmes qui gagnent ça. Et je pense qu'il y a en général, si vous voulez, une confiance qui les aide à surmonter. Et donc, j'ai eu un père qui m'a beaucoup aidée, voilà, et en mettant sa confiance en moi, tu peux, tu vas y arriver. je dis toujours, pour mon père, j'étais la reine de Saba, quoi. J'aurais pu avoir tout... Bon, mais c'était la faiblesse paternelle, ça.
Vous avez fait tout ce que vous avez fait pour le rendre fier, au fond ?
Peut-être, mais ça, je ne saurais pas vous répondre précisément. Je crois que c'était pas tant pour mon père que pour moi. Et aussi, je lui dois ça. C'est-à-dire que, comme j'étais déjà la reine de Saba à 4 ans, vous comprenez bien que j'avais une idée de ce que je devais faire forte.
La reine de Saba, elle a eu la figure du père, elle a eu la figure du mari également. Vous avez 22 ans quand vous épousez cet homme.
Avec Elisabeth, votre épouse, vous formez un couple emblématique. Est-ce que vous en êtes conscient ?
Pas du tout, Elisabeth et moi, nous ne regardons pas comme un couple. Nous sommes ce que nous sommes et nous vivons depuis plus de 50 ans. Et l'éternité, ce serait vivre avec Elisabeth pour toujours, mais espérons, non.
C'est joli ce qu'il dit.
Oui, d'autant qu'il n'aime pas qu'on lui pose ce genre de questions, et moi non plus d'ailleurs.
Vous savez ce qu'il nous a dit ? Il est venu sur France Inter récemment, il nous a dit « Tout ce que je fais maintenant, tout ce qui importe, c'est pour séduire Elisabeth, pour qu'elle m'admire toujours. »
J'ai pas entendu ça, mais ça me gêne ce que vous dites.
Vous l'admirez toujours ?
Et comment ? Plus que jamais.
Vous avez une belle phrase sur Robert Badinter, mais qui peut s'appliquer à d'autres hommes. Un homme qui est si heureux quand il arrive quelque chose d'heureux à sa femme, pour moi, c'est un féministe.
Oui, parce que ça voulait dire, dans mon cas personnel, que Robert m'a aidé psychologiquement, puisqu'on est dans des domaines très différents. Et quand j'arrivais à monter un peu les marches, etc., et que je voyais qu'il était tellement content pour moi, ça veut dire qu'il n'y avait pas la moindre rivalité, pas la moindre, entre lui et moi. Et ça, c'est très important.
Vous n'avez pas souffert parfois d'être ramenée à être Madame Badinter ?
Mais non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, à l'époque, c'était un peu difficile de faire autrement, mais pas du tout. Je vais vous dire, c'était ou Elisabeth Bleustein-Blanchet ou Elisabeth Badinter.
C'est-à-dire soit la fille de votre père, soit la femme de son mari.
Voilà, exactement. Et puis, pas du tout. J'ai toujours porté ce nom avec beaucoup de fierté.
Comment vous faites pour tenir aussi longtemps un couple comme ça ?
Ça, je ne sais pas. Je ne suis incapable de... Je pense d'abord qu'il y a un grand respect l'un de l'autre. Je pense que c'est très important de respecter l'autre. Quand on aime, on respecte. Je n'ai jamais eu le moindre empêchement de la part de Robert pour faire telle ou telle chose. Il peut arriver qu'on ne soit pas exactement sur la même longueur d'onde comme au moment de l'affaire de Creil. Mais il y a un grand respect, si tu penses ça, si tu veux dire ça... Voilà, et ça me semble fondamental de respecter l'autre. C'est pas l'amour, mais ça fait partie de l'amour. À mon sens, sur le long terme, c'est une partie, une illustration de l'amour. Ça suffit pas le respect, mais pour que ça dure beaucoup, il faut respecter la liberté de l'autre, l'encourager, voilà.
L'image du power couple, du couple de pouvoir, les Badinter, le couple iconique pour une partie de l'élite française, de la gauche française. Vous levez les yeux au ciel.
Oui, je lève les yeux au ciel parce que c'est un truc de journaliste, ça.
Enfin, vous l'avez été aussi. Vous avez été un couple de pouvoir. Vous avez eu du pouvoir, de l'influence, si vous préférez. Mais
peut-être qu'on entend plus les critiques que le reste.
Vous avez entendu plus de critiques sur vous, que vous retenez plus ça que...
Non, je retiens rien du tout, mais je sais que une critique est sincère, le compliment, on ne sait jamais.
Vous semblez toujours tellement forte, Elisabeth Badinter, tellement maîtrisée, tellement maîtrise de vous-même. Est-ce qu'il y a la place chez vous pour la maladresse, pour la colère, pour la fragilité ?
Mais certainement, certainement. Je n'ai pas à le montrer en public, mais bien sûr, il y a... La colère, la fragilité...
Est-ce que vous hurlez parfois quand vous n'êtes pas contente ? Vous ne hurlez pas ?
Non, jamais. Je ne hurle pas.
Vous ne cassez pas les assiettes ?
Non plus. J'ai jamais rien cassé par colère. Ce serait rare que je sois en colère, vraiment. Très rare.
Vous n'avez aucun défaut, quoi.
Si, si, j'en ai beaucoup, mais je m'abstiendrai de vous les dire, alors.
Quelques questions de fin, comme ça, vous répondez spontanément, vous ne répondez pas si vous n'avez pas envie. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez lequel ?
Liberté.
Qu'est-ce qui vous fait rire ?
Les comédies qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais qui ont des acteurs qui m'ont fait rire, voilà.
Genre ?
Genre Louis de Funès.
Louis de Funès vous fait rire.
Bah, me fait plus rire maintenant parce que je ne remets pas les films de Louis de Funès. Et voilà, il y a des acteurs qui me font hurler de rire. Et quand je me dis, tiens, ce soir à la télévision, sur une chaîne cinéma de l'ancien temps, il y a un film que personne ne veut revoir, moi je suis assez partante.
Est-ce qu'il y a une femme puissante que vous avez rencontrée et vous vous êtes dit, c'est une imposture ?
Vous voyez, je ne m'en souviens pas.
Vous oubliez ce qui ne vous plaît pas ?
Ça ne me vient pas tout de suite comme réponse.
Vous êtes un homme pendant 24 heures, vous faites quoi ?
La même chose que ce que je fais. Pareil.
Rien de différent ?
Rien de différent.
Vous auriez aimé être un homme ?
Non. Et surtout pas maintenant. Depuis ma jeunesse, j'ai compris que ça allait être le tour des femmes. Donc j'ai toujours été très contente d'être une femme.
Vous êtes coquette ?
Non.
Vous vous maquillez jamais ?
Non. Il faut apprendre l'habitude quand on est jeune. Après, c'est fini, c'est trop tard.
Vous n'avez pas le faire, en fait.
Non.
L'argent fait-il le bonheur ?
Non, mais ça arrange drôlement la vie.
Merci, Elisabeth Badinter.
Merci à vous.
Merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit moment chez vous, dans votre bureau. Merci.
On part de l'altitude, toi et moi. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. On perd notre aptitude, celle qu'on avait à rester fier. Ni l'un ni l'autre ne l'a. On perd notre temps à se perdre tout le temps. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. Perdu, perdu.
Sur France Inter avec son titre Perdu. Cette émission était préparée par Outi Schramiti, Céline Villegas, Mathieu Sarda et Marie-Elisabeth Jacquet. À la prise de son, Laurent Lucas. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. À la réalisation, Sonia Leglen. Bon samedi à tous. Demain, dans Femmes Puissantes, ce sera elle.
C'est pas anodin de prendre un bistouri pour aller ouvrir quelqu'un et faire ce qu'il y a à faire à l'intérieur.
Donc il faut un ego surdimensionné pour se dire « je suis la bonne personne pour faire cette chose-là ». Parce qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que vous.